Bienvenue dans Actualité du Pape. Commençons par la catéchèse qu'a donnée notre Saint-Père, catéchèse qui continue à explorer le discernement. Il s'est arrêté une nouvelle fois sur la consolation. La consolation, maintenant, nous dit-il, authentique, c'était lors de l'audience générale du 30 novembre, place Saint-Pierre. En voici un résumé fait par Vatican News que je vous retranscris. Comment reconnaître une consolation authentique ? C'est la question très importante pour un bon discernement. Afin de ne pas se fourvoyer dans la recherche de notre vrai bien, estime d'abord le pape François, en détaillant quelques critères issus des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Si dans les pensées, dès le début, nous dit-il, le milieu et la fin s'entend entièrement bon, orienté entièrement vers le bien, c'est le signe du bon ange. Mais si le déroulement de nos pensées nous amène finalement à quelque chose de mauvais ou de distrayant, ou de moins bon que ce que l'âme projetait d'abord, ou qui l'affaiblit, inquiète et trouble l'âme en lui enlevant la paix, la tranquillité et le repos qu'elle avait auparavant, c'est un signe clair qu'il procède du mauvais esprit. Qu'est-ce que cela signifie que le début est orienté vers le bien ? Interroge l'évêque de Rome. Par exemple, j'ai la pensée de prier, et je remarque qu'elle s'accompagne d'affection envers le Seigneur et le prochain. Elle invite à accomplir des actes de générosité, de charité. C'est un bon début, affirme le pape, en poursuivant. D'autre part, il peut arriver que cette pensée surgisse pour éviter un travail ou une tâche qui m'a été confiée. Chaque fois que je dois faire la vaisselle ou nettoyer la maison, j'ai une grande envie de me mettre à prier. Mais la prière n'est pas une fuite de ces tâches, au contraire. Elle est une aide pour réaliser ce bien que nous sommes appelés à réaliser, ici et maintenant. Voici pour le début. Il y a ensuite le milieu, ce qui vient après, ce qui suit cette pensée. Si je commence à prier, et que comme le fait le pharisien de la parabole, j'ai tendance à me faire plaisir et à mépriser les autres, peut-être avec un esprit rancunier et aigre, alors ce sont des signes que l'esprit mauvais a utilisé cette pensée comme une clé pour rentrer dans mon cœur et me transmettre ses sentiments, note le Saint-Père. Et puis, il y a la fin. Où me mène-t-elle, cette pensée ? Par exemple, il peut arriver que je travaille dur pour une œuvre belle et digne, mais cela me pousse à ne plus prier. Je me retrouve de plus en plus agressif et en colère. J'ai l'impression que tout dépend de moi, au point de perdre la foi en Dieu. Voici évidemment l'action du mauvais esprit, relève notre Saint-Père le pape François. Le style de l'ennemi est de se présenter de manière sournoise et déguisée. Il commence par ce qui nous est le plus cher et nous attire à lui petit à petit. Le mal entre secrètement, sans que la personne ne s'en rende compte. Et avec le temps, la douceur devient dureté. Cette pensée se révèle pour ce qu'elle est vraiment. D'où l'importance de cet examen patient, mais indispensable de l'origine et de la vérité de ces pensées. C'est, selon le pape, une invitation à apprendre de l'expérience, de ce qui nous arrive, afin de ne pas continuer à répéter les mêmes erreurs. Plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus nous détectons les points d'entrée du mauvais esprit. Ces mots de passe, les portes d'entrée de notre cœur, qui sont les points auxquels nous sommes le plus sensibles, afin d'y prêter attention à l'avenir. Soutient encore le pape François en conseillant à chacun de réfléchir sur sa journée, d'opérer un examen de conscience quotidien, afin de nous aider à grandir en liberté et en conscience. Ainsi, la consolation authentique est une sorte de confirmation que nous faisons ce que Dieu veut de nous, que nous marchons sur ses chemins, c'est-à-dire sur les chemins de la vie, de la joie, de la paix. Le discernement, en effet, ne concerne pas simplement ce qui est bon ou le plus grand bien possible, mais ce qui est bon pour moi ici et maintenant. Ainsi, suis-je appelé à grandir ? En fixant des limites à d'autres propositions, séduisantes mais irréelles, afin de ne pas être abusé dans la recherche du vrai bien, conclut notre Saint-Père, le pape François. Voici la fin de cette retranscription de cette catéchèse sur le discernement. Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne, de l'Escar et d'Oloron, a publié sur le site officiel du diocèse ce samedi 26 novembre un communiqué réagissant au vote de l'Assemblée nationale en faveur de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution le 24 novembre 2022. Voici le communiqué de Mgr Marc Caillé. Jeudi 24 novembre, les députés ont approuvé à une écrasante majorité, 337 voix pour et 32 voix contre, une proposition de loi qui prévoit d'inscrire le prétendu droit à l'avortement dans la Constitution française. Si cette proposition de loi devait à présent être votée au Sénat dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale, elle serait alors soumise à l'approbation du peuple français par la voie d'un référendum dont l'issue ne ferait malheureusement aucun doute. Aussi me paraît-il utile et nécessaire de rappeler avec force un certain nombre de réalités et de principes qui doivent ou qui devraient inspirer la réflexion et l'action non seulement des chrétiens, mais de l'ensemble des citoyens, y compris des élus. Loin de n'être qu'un amas informe de cellules, l'embryon, puis le fœtus, est un être humain à part entière. Puisque dès la conception, l'ADN et les chromosomes qui le constituent font de lui un être humain parfaitement unique et irremplaçable, et objectivement distinct du corps de la femme qui le porte. Qu'on le veuille ou non, l'avortement consiste à supprimer un enfant à naître. C'est pourquoi la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II qualifie l'avortement de crime abominable. Tandis que Saint Jean-Paul II proclame dans l'encyclique Evangelium Vitae que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave, en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Église. Qu'il me soit également permis de souligner, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre, que celles-ci sont bien souvent contraintes de recourir à l'IVG du fait des pressions qu'elles subissent de la part de leur entourage familial, professionnel ou autre, et que de nombreuses femmes ne se remettent que très difficilement des séquelles psychologiques d'un avortement. Dès lors, rien ne justifie le fait d'inscrire l'avortement dans la Constitution pour en faire un droit fondamental ou absolu et quasiment sacré, si ce n'est la volonté, à peine dissimulée, d'autoriser, dès que les circonstances le permettront, l'avortement sans la moindre limitation de durée, c'est-à-dire jusqu'au terme de la grossesse, et de supprimer la clause de conscience dont bénéficient depuis 1975 et le vote de la loi Veil, les professions de santé, médecins et infirmières. N'est-ce pas plutôt une véritable politique de prévention de l'avortement et d'accompagnement des femmes enceintes en difficulté qu'il conviendrait de considérer comme une priorité, afin de limiter en France le nombre dramatiquement élevé d'avortements, au moins 223 000 IVG déclarés en 2021, soit près d'un avortement pour trois naissances. Et ceci pour contribuer à mettre en œuvre une grande stratégie pour le service de la vie, comme le dit Evangelium Vitae. Il est réellement consternant de prétendre inscrire dans la Constitution, qui devrait protéger absolument le droit à la vie, le droit de tuer un être humain. Cela est d'autant plus indigne que les députés s'apprêtaient à débattre sur l'interdiction des corridas au nom de la souffrance animale. C'est bien à juste titre que Benoît XVI écrivait « Quand une société s'oriente vers le refus et la suppression de la vie, elle finit par ne plus trouver les motivations et les énergies nécessaires pour œuvrer au service du bien de l'homme. Si la sensibilité personnelle et sociale à l'accueil de la vie se perd, alors d'autres formes d'accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. L'accueil de la vie trempe les énergies morales et nous rend capables de nous aider mutuellement. » Ceci dans Caritas in Veritate. On pourrait même avancer que la violence infligée à l'embryon humain a un lien avec les autres formes de violence qui se multiplient dans notre société. Alors que nous entrons dans le temps de l'Avent, j'invite par conséquent l'ensemble des fidèles à se joindre aux veillées de prière pour la vie qui sont organisées dans notre diocèse et à méditer ce message particulièrement édifiant d'un ancien évêque auxiliaire de New York, Mgr Austin Vaughan, qui écrivait en 1991 « Lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il n'est pas apparu brusquement au sommet d'une montagne. Sa vie a débuté dans le sein de la Vierge Marie. Pendant 9 mois, le centre de l'univers entier, la personne la plus importante et le bien le plus important ont été un bébé à naître dans le sein de Marie. Dieu a fait cela pour nous enseigner le prix qu'il attache à chaque vie humaine dès son commencement. » Voici maintenant les paroles de notre Saint-Père le Pape François qui l'a prononcé avant la prière de l'Angélus, en commentant l'évangile de ce dimanche. Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Dans l'évangile de la liturgie de ce jour, nous entendons une belle promesse qui nous introduit dans le temps de l'Avent. Votre Seigneur viendra. C'est le fondement de notre espérance. C'est ce qui nous soutient également dans les moments plus difficiles et douloureux de notre vie. Dieu vient. Dieu est proche et il vient. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur vient toujours. Le Seigneur nous rend visite. Le Seigneur se fait proche. Et il reviendra à la fin des temps pour nous accueillir et nous serrer dans ses bras. Devant cette parole, nous nous interrogeons. Comment le Seigneur vient-il ? Et comment le reconnaître et l'accueillir ? Arrêtons-nous brièvement sur ces deux questions. La première question, comment le Seigneur vient-il ? Nous avons souvent entendu dire que le Seigneur est présent sur notre chemin, qu'il nous accompagne et nous parle. Mais distraits comme nous le sommes par tant de choses, peut-être cette vérité reste-t-elle pour nous seulement théorique ? Oui, nous savons que le Seigneur vient, mais nous ne vivons pas cette vérité. Ou bien nous imaginons que le Seigneur vient de manière éclatante, peut-être à travers un signe prodigieux. Au contraire, Jésus dit qu'il en sera comme au jour de Noé. Et que faisait-on au jour de Noé ? Simplement les affaires normales et quotidiennes de la vie. Comme toujours, on mangeait, on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Tenons en compte ceci. Dieu est caché dans notre vie. Il est toujours là. Il est caché dans les situations les plus communes et ordinaires de notre vie. Il ne vient pas dans des événements extraordinaires, mais dans les choses de tous les jours. Il se manifeste dans les choses de tous les jours. Il est là, dans notre travail quotidien, dans une rencontre fortuite, dans le visage d'une personne qui a besoin de quelque chose, et aussi lorsque nous affrontons des journées qui semblent grises et monotones. Le Seigneur est justement là, il nous appelle. Il nous parle et inspire nos actions. Il y a toutefois une deuxième question. Comment reconnaître et accueillir le Seigneur ? Nous devons être éveillés, attentifs et vigilants. Jésus nous avertit, il y a un risque de ne pas nous apercevoir de sa venue et de ne pas être préparés à sa visite. J'ai rappelé plusieurs fois ce que disait saint Augustin. Je crains le Seigneur qui passe. C'est-à-dire, je crains qu'il ne passe et de ne pas le reconnaître. En effet, Jésus dit de ces personnes du temps de Noé qu'elles mangeaient et buvaient, et qu'elles ne se sont doutées de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Faisons attention à cela. Ils ne se sont aperçus de rien. Ils étaient pris par leurs affaires et ils ne se sont pas rendus compte que le déluge allait arriver. Jésus dit en fait que lorsqu'il viendra, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Dans quel sens? Quelle est la différence? Simplement, l'un a été vigilant, il attendait, capable de percevoir la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. L'autre, au contraire, était distrait. Il gagnait sa vie et ne s'est aperçu de rien. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, laissons-nous secouer de notre torpeur et sortons de notre sommeil. Essayons de nous demander, ai-je conscience de ce que je vis? Suis-je attentif? Suis-je éveillé? Est-ce que je cherche à reconnaître la présence de Dieu dans les situations quotidiennes? Ou suis-je distrait et un peu ballotté par les choses? Si nous ne nous apercevons pas aujourd'hui de sa venue, nous ne serons pas non plus préparés lorsqu'il viendra à la fin des temps. C'est pourquoi, frères et sœurs, restons vigilants. En attendant que le Seigneur vienne, en attendant que le Seigneur s'approche de nous, parce qu'il est là. Mais attendons-le en étant attentifs. Et que la Vierge Sainte, femme de l'attente, qui a su saisir le passage de Dieu dans la vie humble et cachée de Nazareth, et qui l'a accueilli dans son sein, nous aide sur ce chemin à être attentifs dans l'attente du Seigneur qui est parmi nous et qui passe. Dans une interview accordée à America Magazine, notre Saint-Père, le pape François, est revenu sur diverses thématiques. L'avortement, les abus sexuels, le rôle des femmes dans l'Église, ou encore l'accord conclu entre la Chine et le Saint-Siège. En voici quelques extraits. Saint-Père, qu'est-ce qui vous rend si joyeux et serein dans votre ministère? Quand je suis avec des gens, je suis toujours heureux. L'une des choses qui me coûte le plus en tant que pape est de ne pas pouvoir marcher dans la rue avec les gens. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas sortir. Il est impossible de marcher dans la rue. Mais je ne veux pas dire que je suis heureux parce que je suis en bonne santé, ou parce que je mange bien, ou parce que je dors bien, ou parce que je prie beaucoup. Je suis heureux parce que je me sens heureux. Dieu me rend heureux. Je n'ai rien à reprocher au Seigneur, même lorsque de mauvaises choses m'arrivent. Tout au long de ma vie, il m'a toujours guidé sur son chemin, parfois dans des moments difficiles, mais j'ai toujours la certitude que je ne marche pas seul. Je ne marche pas seul, il est à mes côtés. On a ses fautes, même ses péchés, je me confesse par exemple, tous les 15 jours. Saint-Père, l'avortement est une question hautement politisée aux États-Unis. Les évêques doivent-ils privilégier l'avortement par rapport aux autres questions de justice sociale? Sur l'avortement, je vous dis ces choses que je répète maintenant. Dans n'importe quel livre d'embryologie, il est dit que peu avant le premier mois après la conception, les organes du minuscule fœtus et l'ADN sont déjà délimités. Avant même que la mère ne s'en rende compte. Il s'agit donc d'un être humain vivant. Je ne dis pas une personne, car il y a un débat à ce sujet, mais un être humain. Et je me pose deux questions. Est-il juste d'éliminer un être humain pour résoudre un problème? Deuxième question. Est-il juste d'engager un tueur à gages pour résoudre un problème? Le problème, c'est lorsque cette réalité du meurtre d'un être humain se transforme en un problème politique, ou lorsqu'un pasteur d'église entre dans une catégorie politique. Dès qu'un problème perd sa dimension pastorale, il devient un problème politique. Et cela devient plus politique que pastoral, c'est-à-dire d'un parti ou d'un autre. C'est universel. Quand je vois qu'un problème comme celui-ci, un délit, qui acquiert une intensité hautement politique, je dis qu'il y a un manque de pastoralité dans la manière d'aborder ce problème. Que ce soit sur ce problème de l'avortement ou par rapport à d'autres problèmes, nous ne devons pas perdre de vue la pastoralité. Un évêque est un pasteur. Un diocèse est le saint peuple fidèle de Dieu avec son pasteur. Nous ne pouvons pas le traiter comme s'il s'agissait d'une affaire civile. De nombreuses femmes très Saint-Père souffrent parce qu'elles ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Que diriez-vous à une femme qui sert déjà dans la vie de l'Église, mais qui se sent encore appelée à devenir prêtre? Il s'agit d'un problème théologique. Je crois que nous amputons l'essence de l'Église si nous considérons uniquement la voie de la dimension ministérielle dans la vie de l'Église. La voie n'est pas seulement celle du ministère ordonné. L'Église est femme, l'Église est une épouse. Nous n'avons pas développé une théologie de la femme qui reflète cela. La dimension ministérielle, peut-on dire, est celle de l'Église pétrinienne. Je fais maintenant référence à une certaine catégorie de théologiens dont nous ne parlons pas. Je fais maintenant référence à une certaine catégorie de théologiens. Le principe pétrinien est celui du ministère. Mais il y a un autre principe, encore plus important. C'est le principe marial, qui est le principe du féminin dans l'Église, de la femme dans l'Église, dans laquelle l'Église se reflète parce qu'elle est femme et épouse. Une Église qui ne connaîtrait que le principe pétrinien serait une Église dont on pourrait penser qu'elle est réduite à sa dimension ministérielle, rien de plus. Au contraire, l'Église est bien plus qu'un ministère. C'est le peuple de Dieu tout entier. L'Église est femme, l'Église est épouse. Ainsi, la dignité de la femme est reflétée de cette manière. Et puis, il y a une troisième voie, la voie administrative. La voie ministérielle, la voie ecclésiale, disons mariale, et la voie administrative, qui n'est pas du domaine théologique, mais de normale administration. Et dans ce domaine, je crois que nous devons donner plus de place aux femmes. Ici, au Vatican, tous les postes dans lesquels nous avons mis des femmes fonctionnent mieux. Par exemple, dans le Conseil pour l'économie, il y a 6 cardinaux et 6 laïcs. Il y a 2 ans, parmi ces 6 laïcs, j'ai nommé 5 femmes, et ce fut une révolution. Le vice-gouverneur du Vatican est une femme. Lorsqu'une femme entre en politique ou dirige les choses, elle s'en sort généralement mieux. De nombreuses économistes sont des femmes, et ces femmes renouvellent l'économie de manière constructive. Il y a donc 3 principes, 2 de nature théologique et 1 de nature administrative. Le principe pétrinien relève de la dimension ministérielle, mais l'Église ne peut pas fonctionner sur cette seule base. Le principe marial est celui de l'Église conjugale, l'Église épouse, l'Église femme. Et puis il y a le principe administratif, qui n'est pas théologique, mais celui de l'administration, de ce que l'on fait. Et pourquoi une femme ne peut-elle pas entrer dans le ministère ordonné? Parce que le principe pétrinien ne prévoit pas d'espace pour cela. Oui, c'est vrai, nous devons être dans le principe marial, ce qui est plus important. La femme est plus, elle est comme l'Église qui est épouse et mère. Je pense que nous avons trop souvent échoué dans notre catéchèse en expliquant ces aspects. Nous nous sommes trop appuyés sur le principe administratif pour l'expliquer, ce qui, à long terme, ne fonctionne pas. C'est une explication très concise, mais ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur les 2 principes théologiques, le principe pétrinien et le principe marial qui composent l'Église. En ce sens, le fait que la femme n'entre pas dans la vie ministérielle n'est pas une privation. La place de la femme est beaucoup plus importante. Et c'est une considération que nous devons encore développer dans une catéchèse sur la femme en considérant le principe marial. Et en parlant de cela sur le charisme des femmes, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Lorsque vous allez ordonner un prêtre, vous demandez des informations aux personnes qui connaissent le candidat. Les meilleures informations que j'ai reçues, les plus correctes, je les ai reçues de mon frère évêque coadjuteur, de mes frères laïcs, qui ne sont pas prêtres, ou de femmes. Elles sentent les choses d'une façon ecclésiale, pour savoir si cet homme est apte ou non au sacerdoce. Une autre anecdote. Un jour, j'ai demandé des informations sur un candidat au sacerdoce qui était vraiment brillant. J'ai demandé à ses professeurs, à ses camarades de classe et aussi aux personnes de la paroisse qu'il fréquentait. Et j'ai reçu un rapport négatif écrit par une femme, disant « Il est un danger, ce jeune homme ne travaillera pas. » Alors je l'ai appelé et lui ai demandé « Pourquoi dis-tu cela ?» Elle a répondu « Je ne sais pas pourquoi, mais si c'était mon fils, je ne permettrais pas qu'on l'ordonne. Il lui manque quelque chose. » J'ai pris en compte sa suggestion et j'ai dit au candidat « Tu ne seras pas ordonné cette année. Attends un peu encore. » 3 mois plus tard, le jeune homme a fait une crise et est parti. Cette femme est une mère qui a vu le mystère de l'Église beaucoup plus clairement que nous les hommes. Par conséquent, la vie d'une femme est très importante et la décision d'une femme est la meilleure. Ainsi se termine Actualité du Pape. Merci de votre attention. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.